Très bien, merci donc pour votre accueil. L'exposé que je vais faire maintenant, en fait, moi le sous-titre de la conférence me convient très très bien, c'est-à-dire agir dans un environnement incertain, parce qu'en fait c'est vraiment ça le sens de mon propos, peut-être même un peu plus que le sens de la séance d'aujourd'hui. Et donc mon entrée, c'est une entrée sur le... non pas comment on garde la confiance, qui serait un peu l'approche que pourrait avoir Pierre Livet dans son approche, sa théorie à partir des actes performatifs d'Austin qui développe dans son livre sur la communication virtuelle, c'est un très beau livre pour les gens qui connaissent qui développent cette question là donc c'est pas vraiment cette entrée là moi l'entrée qui m'intéresse davantage, c'est plutôt celle de la mise en confiance, c'est à dire dans un moment de trouble, dans un moment d'incertitude, comment on fait pour rétablir, ou en tous les cas pour ne pas briser un pacte qui potentiellement en tous les cas pourrait se briser. Donc, mon entrée est socio-économiste. Je suis économiste de formation, mais petit à petit, je vais vers la sociologie et je me tombe dedans, mais tout en gardant quand même mon historique. Et donc je n'ai pas une approche qui va être en termes de contrat ou à la Williamson, qu'on a vu exposer ici, où on dirait que la confiance n'a pas d'intérêt. Si on est dans le calcul, on peut garder la confiance que pour les relations intimes, mais ce n'est pas nécessaire de l'introduire dans la relation économique. Donc je mobiliserai plutôt les approches en termes de régime de confiance et en montrant que le marché est également un endroit où se construit un type de confiance particulier. Alors mon propos à moi, c'est de travailler sur l'économie d'état des communications qui s'est beaucoup transformée ces 20 dernières années. On était dans un dispositif où il y avait, disons, qui était assez familier et assez rationaliste, avec en France des terminaux gris que tout le monde possédait dans tous les foyers, qui étaient simples installations, etc. Et aujourd'hui, on bascule dans un monde où, si on commence à installer une Livebox ou une Freebox ou une box en général, on peut avoir vite des frayeurs, un monde de connexion quasi permanente. Et donc, en reprenant les termes d'Anthony Giddens, on pourrait dire qu'on est en train de changer de système expert. On a une modification de système expert. Et donc, qui entraîne des traces des numériques, c'est-à-dire pratiquement tous les actes que l'on fait sur Internet, sur un téléphone mobile, ou sur l'utilisation d'un service entraîne des traces. Alors tout à l'heure, il y avait un monsieur qui avait une caméra qui filmait la conférence. Donc là, il est parti, donc tant mieux. Dans ce genre d'événement, on peut se dire, bon, bien entendu, c'est courant maintenant de ne plus demander l'autorisation. Donc, il faut faire attention à ce qu'on va dire, parce que, bien entendu, on a confiance, mais si on ne l'avait pas, on pourrait retrouver cette vidéo sur Dailymotion. Il suffit que je dise 2-3 bêtises ce soir. Là, il y a le logo orange. On a vu pendant la campagne électorale en France que ça pouvait susciter quelques réactions lorsque ce type d'événement arrivait. Donc on voit bien qu'on est en train de changer le monde et que du coup, ces traces numériques nous font basculer dans un univers où on peut de plus en plus connaître des choses sur les personnes, des morceaux d'identité des personnes. Ce sont des traces qui sont protéiformes, mais qui renseignent quand même sur l'identité, les pratiques de service. Donc, duquel on arrive facilement à déduire des préférences culturelles, politiques, sexuelles, et puis également maintenant la géolocalisation, les déplacements, donc avec les cartes d'Aligo en France, dans le métro, ou de Vélib, là, qui ont beaucoup de succès, on arrive à citer les gens, et donc avec les réseaux sociaux, on peut même connaître leurs contacts, et donc leurs amis. Donc pour ça, je m'intéresse donc à cette thématique qu'on nomme globalement dans la littérature privacy, mais qui recoupe des choses assez différentes, et qu'on conserve parce qu'elle recouvre un sens qui est un peu plus large que celui du privé en français, mais qui est traité dans la littérature de manière très différente selon qu'on s'intéresse aux sciences de gestion ou d'économie, où on va plutôt regarder la relation entre l'individu et une relation de service. Et donc là, la privacy, ça va être plutôt les règles déontologiques qui vont encadrer le contrat entre un individu et un prestataire de service. Alors qu'en sociologie, on va plutôt s'intéresser à tout ce qui est lié au corps, aux relations amoureuses, aux relations intimes entre les gens, ou amicales, et donc on va beaucoup moins la connecter au TIC. Donc là, ce sont les travaux justement de Thévenot, de Saint-Guy, Stavo de Vaud, Geoffrey Leguéry. Et donc si on plaque cette logique-là dans l'univers des TIC, ça va être toutes les thématiques sur les logiques d'individualisation, de représentation de soi, et donc de gestion des identités multiples numériques dans les univers multiples dont Serge a parlé un peu tout à l'heure. Donc la communication que je vais faire maintenant, elle repose en fait sur donc un travail qu'on a entamé il y a 2 ans. On s'est interrogé sur cette question de la confiance et de la sécurité, et on a mené dans notre laboratoire donc une série d'études Donc la première étude était une étude plutôt sur les objets communicants, c'est-à-dire voyant arriver des objets communicants, donc on parle d'Internet des objets ou d'étiquettes radiofréquences que l'on met dans les terminaux, on a voulu voir comment, s'il y avait une réaction par rapport à ça au niveau des individus, comment les gens percevaient cette évolution de la technique. Ça, c'était la première enquête. Ensuite, on a mené une deuxième enquête qui était plus sur la sécurité informatique, sur la représentation du risque et les pratiques de sécurisation des individus. Et là, on a mené une enquête à la fois qualitative et quantitative. Par rapport à ces enquêtes, le constat qu'on a fait généralement, et qui nous a un peu surpris, c'est qu'en fait, on aurait aimé que les gens nous disent « mais je suis très inquiet » ou « je... enfin, » On aurait voulu susciter, nous-mêmes étant méfiants, à voir réapparaître une réaction. Et en réalité, on a vu beaucoup de réactions très ambivalentes, très paradoxales. Et c'est ça que je vais un peu développer dans la première partie de l'exposé. Puis dans la deuxième partie de l'exposé, je vais essayer de donner des cadres d'analyse permettant de comprendre, d'expliquer ces paradoxes et puis de donner des solutions peut-être de régulation ou de gouvernance sur ces questions de privacy en revenant sur la question de la confiance. Alors, je viens au premier point, c'est que, en fait, on voit apparaître des affaires, qu'on pourrait appeler des alertes au sens de Francis Châteaureno et Didier Tormy, mais ce sont des affaires qui ne font pas boule de neige du tout. C'est des affaires qui font pchit, pour prendre une formule célèbre en France. Donc, elles font pchit, les affaires. C'est-à-dire qu'en réalité, on demande aux gens. Il y a un espèce de hiatus entre les déclarations critiques que peuvent faire des gens dans des interviews. Et puis, les déclarations qu'eux-mêmes vont faire de leur propre pratique, c'est-à-dire qu'assez vite, ils nous disent au début, ils sont très prudents, oui, j'ai peur, oui, c'est dit, oui. Mais finalement, ils lâchent ces prises au fur et à mesure qu'ils vont goûter à l'utilité d'un service. Et finalement, ils nous disent qu'ils acceptent assez facilement quand même de donner des informations. Bon, par exemple, à titre de verbatim, ce qu'on peut avoir dans nos enquêtes, on va avoir des gens qui vont dire « Oui, mais si quelqu'un veut vraiment entrer dans mon ordinateur, de toute façon, pour prendre une photo, il ne faut pas se modérer, il y arrivera. » Ou alors, on va avoir des formules du type « De toute façon, moi, je n'ai rien à cacher, c'est seuls les criminels ou c'est les pédophiles qui doivent s'inquiéter. » On a une justification de raison d'État qui va un petit peu tout de suite écraser l'argument. Ou alors, un argument plutôt sur la foule, sur l'anonymisation de la foule. « Je ne suis pas le fils du président de la République qui va s'intéresser à mes données. » Donc, cette posture relativiste par rapport à la société d'information et de son évolution est assez mal perçue par un certain nombre de travaux critiques qui vont justement... qui essaie de dénoncer cette évolution de la technique. Et typiquement, dans un des articles, par exemple, assez classique, typique de cette évolution, de Myriam Marzouki, dans un numéro qu'on va publier en novembre, avec, on profite pour faire un peu de publicité avec Serge, dans les annales des télécoms sur la sécurité et la confiance dans le monde numérique. Donc Myriam Marzouki...
Annales des télécoms,
voilà. Novembre-décembre 2007. Donc Myriam Marzouki fait le tour de toutes les évolutions juridiques récentes pour montrer qu'en fait, dans son analyse, on basculerait d'un monde de confiance à un monde de suspicion, et on basculerait d'un monde de confiance où la suspicion serait généralisée. Et donc, un des exemples qu'elle donne, c'est par exemple la transcription de la directive européenne sur les données privées qui a eu lieu récemment, de la directive de 2002, pardon, qui fait qu'il y a eu un petit glissement sémantique où la CNIL en France, qui est donc l'organisme de régulation informatique et liberté, pour les décisions d'État, devait donner un avis quand l'État voulait faire une réforme concernant les données privées. Il y avait un avis conjoint avec le Conseil d'État. Et donc ce qui voulait dire qu'en gros, il devait y avoir une concertation entre la CNIL et le Conseil d'État. Et s'il n'y avait pas cette concertation, l'avis était défavorable, donc l'État ne pouvait pas le faire. Or, dans la réforme, la CNIL émet son avis et le Conseil d'État, en fonction de l'avis, décide. Donc, du coup, le Conseil d'État peut théoriquement passer outre par rapport aux décisions de la CNIL. C'est un petit glissement, mais pour Myriam Marzouki, c'est un des exemples qui montre qu'on est en train de... qui est très symbolique, et qui montre qu'on est en train de changer de monde, puisque la CNIL a été constituée, pour un petit rappel, en France, par rapport à une affaire qu'on appelle le projet, par rapport au projet Savary, en 1974, qui consistait à interconnecter des bases d'administratif, et un article dans Le Monde de Philippe Boucher qui s'intitulait « Safari ou la chasse aux Français ». Et à partir de ça, donc, on a fait une régulation, la loi de 78, et donc la CNIL est née. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, on parle d'interconnexion de fichiers, on veut faire des fichiers d'ADN, on veut faire des fichiers de gens potentiellement suspectés, mais qui auraient été disculpés par la police. C'est-à-dire qu'il y avait un projet de faire des fichiers de gens qui, en fait... avaient été entendus par la police, même s'ils étaient disculpés, ils étaient dans le fichier. Donc on voit bien que derrière, ça veut dire que s'il y a une affaire similaire derrière, on ira chercher dans le fichier pour les interroger. Donc par rapport à toutes ces questions-là, on voit qu'émerge un certain nombre d'affaires et qu'à chaque fois, on a un processus assez classique. Donc ça peut être des alertes au sens de Francis Château-Renaud et Torny, mais que ces affaires ne font pas mouche. Alors, je donne quelques exemples. Le projet INES, qui est un projet de carte d'identité nationale en France à partir de données biométriques. Donc, il y a eu le Forum des droits qui a fait... qui a fait de la concertation par rapport à ce projet-là. Il y a une pétition qui a été mise en ligne par le syndicat de la magistrature, la Ligue des droits de l'homme et d'autres différentes autres organisations de liberté, et qui a aujourd'hui, au jour du 18 octobre 2007, donc j'ai vérifié, à peu près 8000 signatures. Mais ce projet, pour l'instant, il a été un petit peu mis de côté, mais il n'est pas du tout abandonné. Donc il peut très bien réapparaître. Derrière cette idée-là, il y avait l'idée au départ, juste pour rappel, d'avoir un projet unique pour délivrer les passeports et les cartes d'identité, mais qui faisait complètement basculer le régime des cartes d'identité avec des règles biométriques, notamment imposées par les Américains, qui sont beaucoup plus fortes que la carte d'identité, qui est normalement posée sur des processus classiques. C'est un des exemples. Il y en a d'autres, alors que je ne vais pas développer, mais sur le vote en ligne ou d'autres questions. Bon, on va émettre beaucoup de pétitions, mais cette activité de pétition n'a pas d'impact très fort dans l'opinion publique. Alors, les autres exemples que je vais développer, il y a l'exemple peut-être que vous connaissez sur le RFID aux États-Unis, autour de l'Auto-ID Center, et puis l'affaire AOL Research, qui est plus récente. Donc, je vais me tromper de côté. Hop, voilà. Donc, l'affaire de l'Auto-ID Center, c'est aux États-Unis. Donc, c'est une des affaires qui, elle, a eu un peu d'effet, où, en 2002, Gillette et Benetton ont testé le potentiel de la RFID pour contrôler le vol de leurs objets en magasin. Le problème classique pour Gillette, c'est que la valeur est dans leur lame de rasoir et pas dans le rasoir qu'ils vous donnent. Et donc, comme les lames valent très très cher, elles sont souvent volées. Donc, il y avait un dispositif, on mettait des tags RFID dans les lames, on mettait des contrôleurs dans les rayons, on avait un système de contrôle savant qui pouvait contrôler tout ça. Et après, ils ont essayé plusieurs dispositifs, donc l'un avec une prise de photo de la personne qui prenait les rasoirs et puis après qui était imprimé au niveau de la caisse. C'était un des premiers dispositifs. Un deuxième, c'était plutôt des règles de gestion de comportement. Si je prends un rasoir, je suis un client. Si j'en prends plusieurs, je suis déjà louche. Si j'ai un comportement dans le magasin, il y avait des règles de comportement qui nous qualifiaient en client ou en potentiel voleur. Voilà, donc ça c'est pour Gillette. Pour Benetton, c'était de mettre des tags dans les vêtements et ne pas les enlever. C'est-à-dire qu'on contrôlait les vêtements, mais du coup, on pouvait se balader derrière avec des vêtements qui conservaient le tag. Et donc, du coup, comme ces tags peuvent être réactivés, on pouvait potentiellement nous suivre. Bon, du coup, aux États-Unis, comme c'est souvent le cas, il y a une association de consommateurs un peu plus puissante qu'une association de consommateurs qui se sont emparés du problème et qui ont fait un boycott. Donc, les sites existent toujours, d'ailleurs. Et la réaction immédiate de ce boycott, c'est que les deux entreprises ont retiré leur projet momentanément. Et l'une des raisons, c'est que ça ne marchait pas très bien non plus. Et donc, ça coûtait très cher. Donc, ce n'était pas forcément le moment de prendre un risque en termes d'opinion publique par rapport à ces projets-là. L'autre exemple que j'aimerais donner, c'est celui de l'affaire AOL. Donc, ça, c'est un exemple qui est particulièrement intéressant. Puisque en fait, donc AOL Research a mis en ligne en 2006, par erreur, une base de données concernant 500 000 internautes sur une période de 3 mois d'utilisation, et donc un certain nombre de requêtes. Elle s'est aperçue, donc c'est vraiment une erreur, elle s'est aperçue que de cette erreur assez vite, elle l'a retirée au bout de quelques heures, je crois. Mais pendant ces quelques heures, ça suffit pour que la base de données soit dupliquée une centaine de fois. Moralité, la base de données existe toujours sur Internet, il y a des moteurs de recherche spécialisés, parce que bien sûr, pour les chercheurs américains d'université, c'est un peu du pain béni, cette base de données, parce que ça permet de faire ce qu'on ne peut jamais faire, c'est avoir des données fraîches et réelles pour faire des traitements. Et donc, quand on regarde ce qui est dans cette base de données, donc on voit bien que les requêtes les individus sont identifiés par un numéro de requête, qui doit être le numéro de leur ordinateur, ou leur adresse IP qui est remplacé par un numéro. Donc on pourrait dire, il y a une anonymisation, il n'y a pas de problème. Mais comme le contenu sémantique des requêtes est quand même est écrit en texte compréhensif et qu'on peut faire des inférences entre les requêtes, il est possible de connecter des inférences très très générales. Alors, à titre d'exemple, parce que c'est assez parlant, il y a des requêtes comme « À partir de combien de jours est-on enceinte ?» ou « Que dit Dieu à propos du suicide ?» ou « Quels sont les horaires de la maison d'arrêt ?» etc. À des requêtes sur l'intitulé d'une rue, d'un CV d'un professeur d'université, d'un horaire de cours, du nom d'une personne. Donc on voit bien que avec ces requêtes, on a des choses très très détaillées sur les gens. Bon, c'est pareil, cette affaire-là, il y a eu un peu d'articles dans la presse, mais pas beaucoup d'autres, pas beaucoup de suivi. Alors, ça, c'est le premier paradoxe. Le deuxième paradoxe, c'est qu'on a également des données qui sont de plus en plus en prise sur les données de... Les données privées sont de plus en plus en prise sur les données de marché. Donc, un très frappant des enquêtes, c'est que quand on demande aux utilisateurs d'Internet quel est leur rapport par rapport à la prospection commerciale, la plupart se plaignent du spam qu'ils vont recevoir, ils manifestent une attention un petit peu irritée par rapport à ces intrusions, mais paradoxalement, ils nous disent aussi, dans les mêmes interviews, que si la prospection est bien ciblée, et s'ils en retirent une utilité, c'est-à-dire en gros s'ils ont des produits bon marché, etc., finalement, là, ils ne sont pas contre. Puis quand on creuse un peu, on s'aperçoit qu'en fait, une partie de leur surcharge cognitive, elle est liée à des newsletters qu'ils vont eux-mêmes aller chercher, donc ils vont s'inscrire à un certain nombre de sites, notamment pour les voyages, pour les biens qui sont vendus moins cher. Et donc, ils donnent un certain nombre d'informations sur leur personnel à ces sites-là. Alors quand on creuse aussi comment ils se protègent du spam, comment ils vont dans le marché, ils nous disent quand même qu'ils vont avoir des stratégies plus ou moins organisées pour se protéger. L'une d'entre elles étant qu'au minimum, ils ont une adresse poubelle. Généralement, on donne l'adresse poubelle pour le site, donc du coup, on garde notre adresse réservée à nos relations amicales ou à nos réseaux sociaux. Ce n'est pas la même que celle qu'on donne au site marchand. D'autres sont un peu plus, vont avoir des stratégies plus élaborées, donc on va mal orthographier un nom. Comme ça, on peut pister aussi la réponse pour savoir si on a du spam, si ça ne vient pas de ce site-là. On va mentir sur sa date de naissance, on va utiliser des alias, etc. Donc ça, Mais alors, ce qui est intéressant dans ces éléments, c'est qu'en fait, on touche avec le monde numérique à une transformation du rôle en fait de l'économie. Disons que pour retirer très très vite les choses, on était dans... Si on regarde ce que nous dit l'économie politique du monde marchand, c'est un monde où il y a une séparation entre le bien et le bien-être. C'est-à-dire que toutes les théories économiques du XVIIIe siècle et même les théories utilitaristes récentes, elles prennent, pour celles qui sont dans un cadre de concurrence parfaite, les individus sont price takers, mais au minimum, les préférences sont exogènes au modèle. C'est-à-dire que les préférences font partie des individus, c'est pas la science de l'économie de les étudier. La science de l'économie, c'est de regarder comment l'ensemble de ces préférences nous font aboutir à l'optimum social. Dans ces modèles-là aussi, on a des biens qui ont des caractéristiques naturelles. C'est-à-dire qu'ils sont produits. Le problème, c'est est-ce qu'on a l'information sur ces biens, mais en tous les cas, les biens ont des caractéristiques naturelles. Et donc, l'optimum social découle d'une confrontation entre l'offre et la demande. Et donc, en fonction de la complétude du marché ou de sa perfection, on va avoir besoin d'une régulation ou on ne va pas en avoir besoin. Dans l'économie numérique, on a un changement un petit peu de paradigme, pour prendre les termes de tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a une utilité d'un bien qui va découler en partie de la consommation du bien par les autres. C'est ce qu'a dit, très bien dit tout à l'heure, Serge, dans son analyse du site communautaire et de la production de contenu par les utilisateurs. Et donc, on est dans un monde où la marchandise n'est pas du tout rare, elle est plutôt en situation d'abondance. Et le problème, et donc là on redécouvre quelque chose qui a été énoncé par Herbert Simon dans les années 70, le problème il est du côté de la capacité des individus à traiter cette information. Donc, dans les termes de Simon, c'est la rareté de l'attention qui compte, c'est-à-dire l'attention portée, l'attention comme processus à ces informations, et non pas dans, ou à ces contenus, et non pas dans les contenus eux-mêmes. Et si du coup la marchandise est en situation d'abondance, et que le problème est un problème de rationalité limitée, pour prendre les termes d'Herbert Simon, et donc de rareté de l'attention, où va se situer la valeur? Eh bien, la valeur, et là, c'est là qu'il y a un tour de passe-passe dans les modèles économiques, mais qu'il faut bien suivre, c'est que la valeur se situe dans la rareté, donc elle se situe dans l'attention. Mais l'attention se situe sur Internet, dans les traces qu'on va laisser sur les sites web, puisqu'on est supposé, par ces traces laissées sur les sites web, ce sont des traces d'attention, c'est-à-dire, si je vais voir un site, c'est que j'ai porté un intérêt sur ce site. Donc, dans les valeurs de ces traces laissées sur le site web, se situerait ici la valeur du web, que l'on recherche depuis les années 2000 au moins, dans les business models, Serge, peut-être qu'on arrivera à trouver des sources, mais voilà. Donc la valeur se trouve dans les traces. Et donc, du coup, on est un marché qui était un marché, on va dire, classique, plutôt un marché sans mémoire, atemporel. Avec l'économie de l'attention, on irait dans un marché de la mémoire, un marché qui est au contraire très, très historique. Alors, une autre source de valorisation de traits de traces, c'est tous les modèles de valorisation publicitaire, donc avec le fait qu'on va essayer de capter l'attention des utilisateurs. Donc, on leur donne un contenu gratuit, on a une forme d'hybridation qui repose par un contenu gratuit, mais on attire l'attention de l'utilisateur et donc on valorise par la publicité. Alors, je passe sur toutes les questions de mesure, que ça pose, hein, parce que bien entendu, entre regarder un message publicitaire, le comprendre, etc., il y a énormément de débats là-dessus sur qu'est-ce qu'on mesure en réalité quand on mesure un clic sur une publicité. Mmh. Est-ce qu'on mesure vraiment une attention? Est-ce qu'on mesure rien du tout? Bon. Est-ce que ça a un impact sur les ventes derrière? Enfin, tout ça est très, très l'objet de nombreuses controverses. Donc, un autre exemple que je voudrais donner, c'est l'exemple alors là, je sors de l'Internet pour aller du côté des objets communicants, du Pay-as-you-drive, qui est un des business models, pour reprendre ce terme-là, lié au fait que l'on peut aujourd'hui géolocaliser des individus, tracer ces informations, et que ça peut être utile pour les individus si on leur fait bénéficier d'une partie de ces informations. Donc, cet exemple-là est un exemple, c'est des assureurs qui se sont emparés de ces marchés-là. Ça consiste à mettre une boîte noire dans les véhicules. Par la géolocalisation, on peut avoir des informations liées à une vitesse dépassée par rapport à des vitesses autorisées. On peut avoir des informations par la boîte noire également sur la rapidité d'une accélération, sur un type de conduite. Et on a aussi des informations sur le temps de conduite, etc. Et à partir de ça, on peut donc calculer une prime d'assurance qui va être proportion des usages. Et donc, moins cher si on conduit bien ou pas beaucoup, et plus cher si on conduit mal et longtemps, par exemple. Donc ça a très bien marché dans les pays anglo-saxons, et c'est arrivé en France, et il y a eu une opposition de la CNIL, parce que, le dispositif était très intrusif, considéré comme vraiment disproportionné par rapport aux usages. Deux, il y avait un problème, c'est que ces dispositifs mesuraient des infractions, faisaient des fichiers d'infraction, or les sociétés privées n'ont pas le droit de faire des fichiers d'infraction en France, des règlements de la loi informatique et liberté. Et puis, également, parce que, en fait, on avait deux points de vue. Alors là, il y a un argument qui est plutôt un argument de plus subtil, de proportionnalité. C'est qu'on n'a pas besoin, aujourd'hui, avec la puissance des statistiques, de rattacher une donnée aux personnes pour faire un calcul de prime très élaboré. Puisqu'avec les modèles statistiques, on peut très bien, par les risques, et donc c'est ça la technique normalement des statistiques, on peut très bien attribuer une probabilité de risque très très forte en prenant des caractéristiques d'une population sans toucher la population. Alors, le dispositif a été refusé. Donc, on pensait en France que c'était... longtemps, on ne viendrait pas à réapparaître ce type de choses. Et en réalité... il y a à peu près 2-3 mois, la CNIL, avec un autre assureur, a validé un autre dispositif qui repose sur quelques règles de précaution. Donc, il ne mesure pas les infractions, ça sert pour la prévention, mais pas pour le calcul des risques. Et les données sont remontées par une base de 5 véhicules minimum et pas une véhicule individuellement. Mais vous voyez bien quand même qu'on est dans un milieu où on est en train de franchir petit à petit des frontières. Et qui sont quand même très éloignés de la loi Safari, où on sait quand même, aujourd'hui, la loi Safari, enfin le projet Safari, c'est un projet qui est vraiment tout petit par rapport au projet d'interconnexion de base de données que l'on est en train de mener en France sur la sécurité. Alors, l'autre paradoxe, et pas que je parle trop parce que sinon je ne parlerai pas des modèles, donc l'autre paradoxe qu'on a vu dans nos enquêtes, c'est que alors, nos individus, ils sont quand même paradoxaux parce qu'ils ont peur, ils font quand même, malgré tout, ils font quand même des choses. Et en même temps, on ne sait pas très bien s'ils veulent rester cachés ou ils veulent se montrer. Et là, je rejoins complètement ce qu'a dit Serge tout à l'heure. C'est qu'en fait, il y a une tendance narcissique dans le web 2 ou dans le web en général, dans l'individualisation, où les gens, quand même, volontairement, dans ces dispositifs relationnels, mettent beaucoup de choses sur eux, sur Internet, parce que c'est aussi un moyen d'attirer les gens vers soi et d'entrer en relation avec l'autre. Alors peut-être dans des relations qu'on peut dire fragiles ou éphémères ou très superficielles, mais en tous les cas, c'est un mode de communication, c'est de se montrer. Et donc il y a des affaires, alors c'est ça qui m'intéresse moi, c'est qu'on voit apparaître des petites affaires, qui sont plus les grosses affaires de tout à l'heure, qui sont des petites affaires, mais qui sont à la fois très exemplaires à mon avis. D'abord parce qu'elle raconte le web, c'est-à-dire généralement on raconte le web par rapport à ces affaires-là, donc on ne sait plus ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai dans ces affaires-là, on ne connaît plus la source du monde de l'information, tout le monde raconte la chose, donc ça devient vraiment, vraiment des romans, mais qu'en même temps elles peuvent l'être, elles sont tout à fait plausibles, et qu'elles posent de vrais problèmes de la mise en visibilité. Alors l'un des premiers exemples que j'aimerais donner, c'est l'exemple de ce jeune homme aux États-Unis, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle donc maintenant Star Wars Kid, mais qui était tout simplement un jeune homme qui s'est pris en vidéo en train d'imiter Luke Skywalker devant sa caméra avec un bâton. Il était un peu ridicule, la caméra a été mise par ses copains sur Internet, c'est resté comme ça, quelqu'un l'a vu, il lui a mis des effets spéciaux, c'est passé dans les réseaux de peer-to-peer, et puis finalement ils sont tous amusés à rajouter des trucs, il y a eu 50 vidéos parodiant son histoire. À la fin de l'histoire, donc, le jeune homme a fait une dépression nerveuse, il a quitté son école, il était la risée de ses copains, etc. Ses parents ont fait un procès, parce que c'est aux États-Unis. Non, c'est au Québec, je crois, d'ailleurs. C'est pas aux États-Unis. Et puis, comme c'est nord-américain, il y a quand même toujours une happy end à la fin. Donc, la communauté a dit que c'est réuni pour lui offrir un cadeau. Puis après, ils ont fait une pétition pour que George Lucas le mette au casting de son prochain Star Wars. Bon, bref, voilà. Mais c'est exemplaire quand même d'un des problèmes de visibilité d'un petit truc. On a tous fait le pit devant sa glace, etc. Et ça devient une affaire publique quand même qui est attachée à la personne très fortement et durablement. Un autre exemple qui est un peu du même type, c'est français, mais c'est aussi bien. Donc si vous avez allez voir sur Internet, si vous tapez Mathieu Védis, vous verrez la vidéo. Donc là, c'est l'histoire d'un jeune homme d'une vingtaine d'années qui a voulu mettre une petite vidéo en libre, un petit CV pour se présenter, pour le faire valoir, enfin utiliser Internet pour se valoriser. Mmh. Et donc il a créé une petite vidéo, et il commence sa vidéo en disant « Bonjour, moi c'est Mathieu, je vais tenter de vous dire en 3 minutes tout ce qu'il n'y a pas dans mon CV. Mmh. » Et là, vous l'avez vu, voilà. On y apprend qu'il connaît tout du monde de l'Internet, qu'il a envoyé son premier email en 1987, et depuis il ne s'est jamais déconnecté. Bref. Tout ça sous le son d'un son très très mauvais, une vidéo très amateur, avec une musique très 80. Et donc ça a été l'élément déclencheur, j'imagine, pour qu'il y ait justement des gens qui se sont amusés avec cette vidéo. Et donc il y a une parodie de cette vidéo, il y en a plusieurs, de plusieurs natures, plus ou moins réussies. Moralité, Mathieu Védis a fermé son site internet, il a supprimé sa vidéo, mais avec ce dispositif des utilisateurs qui produisent leur propre contenu et qui diffusent de l'information, la vidéo est réapparue régulièrement dans Dailymotion ou YouTube, et donc elle est tout le temps en permanence, il y a ces images qui sont quand même pas très valorisantes pour l'individu. Troisième type d'exemple, c'était l'exemple de cette jeune fille dont le protecteur a mis une photo toute bête sur Flickr. Donc sur Flickr, par défaut, les photos sont visibles. Il a dû cocher Creative Commons. Donc il coche son truc. Et puis voilà, sa photo est partagée, comme souvent sur Flickr, sans être protégé. Sauf que Virgin Mobile aux États-Unis a utilisé la photo pour faire une campagne de pub avec cet excellent jeu de mots qui est Free Text Virgin to Virgin, qui n'a pas beaucoup plu aux parents de la jeune fille. Et donc du coup, il y a eu aussi un procès. Et donc, et voilà un troisième exemple de mise en visibilité, de récupération de données personnelles pour un usage commercial, et qui pose quand même un vrai problème à qui appartient une donnée. Alors, à partir de ces exemples-là, il me reste...
Écoute, continue.
Alors à partir de ces exemples-là, j'ai essayé de bâtir une analyse qui essaie de comprendre à quel niveau jouent les rationalités de la confiance et comment on peut essayer de voir quels sont les impacts de régulation et pourquoi les gens qui montrent ces affaires-là finalement ne sont pas entendus. Donc la première entrée, c'est l'entrée classique par les systèmes et par les normes. Et donc là, je m'appuie sur l'analyse de Luhmann. Et donc, si on reprend... Donc si on reprend Luhmann, avec sa distinction entre la confidence et le niveau de confiance décision, donc je ne vais pas développer puisque vous avez eu des séances là-dessus, on comprend mieux pourquoi il y a une indifférence assez forte des individus par rapport aux militants activistes qui sont sur un modèle très militant des années 70, sur lequel le citoyen doit se prendre en charge dans des organisations et donc par ce biais-là agir sur la puissance publique. Là, on a des gens qui sont dans un monde où il y a une désaffection générale de la politique. Les médias n'ont pas une grande cote en termes d'indices de confiance. Le service public en général, même dans un pays comme la France, finalement, a beaucoup moins de supporters qu'il pouvait en avoir par le passé. Bref, dans ce monde-là, où la communication politique elle-même prend le dessus sur la cohérence des idées, et il suffit de voir la façon dont les hommes politiques justifient l'introduction des machines à voter pendant les dernières élections, sans débat public, avec des arguments en termes de progrès technique, développement durable, etc. etc. On est passé dans un dispositif où ce qui compte, c'est quand même la partie communicationnelle est beaucoup plus forte que la partie, sur la partie vraiment identité, idée, voire idéologie, au sens noble du terme. Donc, c'est assez logique, donc, si on reprend les analyses de Luhmann, que dans un dispositif comme ça, où il y a une désaffection au niveau de la confidence, que les individus ne peuvent pas s'engager dans une action-décision sur laquelle ils vont penser qu'ils vont pouvoir agir sur les fondamentaux. Et qu'ils adoptent plutôt une posture fataliste, celle que j'ai décrite au début, qui est plutôt de lâcher prise sur ce monde qui serait mis à mal par la puissance du numérique. Si on prend une entrée par le marché, on voit que le système va agir sur les individus comme un dispositif de captation, et on voit que toute la science du marketing qui s'appuie sur des modèles aussi un peu systémiques cherche en fait, donc Cauchois l'a très bien montré dans l'ouvrage qu'ils ont mené avec Alan et d'autres sur la captation des publics, vont chercher à segmenter la population, décrypter les comportements de consommation, tout ça dans un but d'écoulement de produits dans lequel le design, les codes couleurs, l'ergonomie des interfaces vont être mobilisés pour capter et conduire le consommateur à acheter ou à consommer ce produit-là, ou à focaliser son attention. Donc on voit que l'approche marchande peut très bien être considérée, le marché peut lui-même être considéré comme un système, et non pas, comme dans les approches libérales, comme un acte individuel où la rationalité des individus va être confrontée les unes aux autres. Comment on pourrait agir? Quelle est l'action en termes de ces fondamentaux? Il y a bien entendu renforcé la question de la déontologie ou des règles liées à la privacy. Donc, je dis pas, non, mon propos n'est pas de dire que l'intervention visant à dire des activistes, il faut être vigilant sur l'interconnexion des fichiers, il faut être un contre-pouvoir par rapport à l'État qui veut très rapidement et sans débat mettre interconnecter des fichiers est un mauvais débat. Je dis juste tout simplement qu'il agit à ce niveau-là et qu'il faut des leviers à d'autres niveaux pour qu'on arrive à renforcer ce niveau-là, et qu'à mon avis, il part de comportement au niveau des utilisateurs. Par exemple, il faut très bien se poser en France la question si la CNIL est encore une institution adaptée au monde du numérique, avec ses moyens très très faibles. Au niveau du marché, ça repose plus sur des règles de déontologie, donc quelles sont les règles de déontologie au niveau de la gestion des données des individus. Alors, pour le dire très rapidement, il y a une approche qui est un peu, d'ailleurs, qui est développée ici en Belgique, notamment à l'Université catholique de Louvain, c'est que avec une approche sur les savoirs économiques ou le savoir des libertés de la privacy, il faudrait arriver à mettre ensemble au niveau des systèmes un dispositif de procéduralisation qui qui rendent compatible, donc je prends plutôt la lecture de Töpner, puisque je suis parti de Luhmann, que celle d'Habermas, mais qui rendent compatible le programme de l'économie avec le programme des activistes des libertés. Donc c'est très compliqué, nous dit Töpner, de rendre compatibles ces deux programmes-là, mais à mon avis, c'est un des enjeux, et on voit avec la politique de Google, que j'espère avoir le temps de raconter tout à l'heure, que quand même, il y a des enjeux qui sont en train de se mettre en place au niveau de la Commission européenne, et qu'il y a quand même une intervention forte possible à ce niveau-là. Alors, la deuxième entrée, donc ça je passe, je vais en parler, la deuxième entrée, c'est le contrat, donc c'est la rationalité partant de l'individu. Et donc là, on a en gros un dispositif libéral qui repose sur l'idée que l'individu est responsable, que ses actions vont donc permettre d'aller au bien commun, donc il faut lui donner des moyens d'agir, et c'est par ces moyens qu'on va lui rendre, qu'on va le sortir justement d'un dispositif de captation pour renforcer sa prudence et donc un dispositif basé sur la rationalité, et qu'à partir de là, on va avoir une régulation qui conviendra et qui sera une régulation conduisant à un optimum social. Donc l'un des exemples, c'est le débat autour du contrôle parental. C'est-à-dire le contrôle parental, il faut forcer les producteurs de formation, les FAI, à donner un élément aux individus, le contrôle parental, des fuites. Et à partir de là, c'est aux individus eux-mêmes de contrôler l'information que leurs enfants peuvent avoir accès. Mais ce n'est pas à l'État de décider à la place des individus ce à quoi ils doivent avoir accès. Donc il faut donner des moyens. C'est vraiment, on est dans une économie de moyens qui est donc vraiment au cœur de la science économique. L'autre débat, c'est un débat sur le l'opt-in et l'opt-out, qui a un peu le même débat au niveau de la Commission européenne. C'est l'opt-in, c'est l'idée que donc c'est moi qui, par mon libre arbitre, qui donne accès, qui autorise qu'on utilise mes données. L'opt-out, c'est on a le droit de faire ce qu'on veut de mes données, mais moi j'ai le droit de dire non, je ne suis pas d'accord. Donc l'opt-out, c'est un petit peu un compromis avec un dispositif de captation. C'est-à-dire finalement le système capte tout. Mais quand même, on donne une liberté à l'individu de revenir en arrière et de récupérer un peu de main, une main sur le système. Alors que l'opt-in était plutôt un dispositif qui est beaucoup plus connecté au dispositif de l'économie classique libérale. Et enfin, troisième élément, c'est ce qu'on a dit sur les attentions. Si la valeur est au niveau des traces d'attention, eh bien, il faut définir les traces d'attention, les droits de propriété sur ces traces d'attention. Et donc là, ce sont des analyses qui reposent sur l'article de cause de 1960 et qui, en fait, revient à dire que pour qu'il y ait une régulation efficace, quand il y a des externalités, là, on est vraiment dans un problème d'externalité, il faut bien définir les droits de propriété. Et si, en plus, il y a des coûts des coûts de transaction, il faut une régulation publique pour arriver à réguler le marché. Bon, voilà. Je passe vite, mais bon, tout ça, c'est assez classique. Donc, bien entendu, ce modèle-là est aussi une réponse, mais une réponse assez insuffisante par rapport à notre problème de confiance. Et l'une des raisons, c'est que, un, ça suppose quand même qu'on a des individus qui sont très, très, très aguerris de tous ces dispositifs-là, ce qui n'est pas le cas, qu'il y a une égalité au niveau de la technique, parce que toutes les études sociologiques démontrent le contraire, pardon. Et donc, c'est surtout des dispositifs, en plus, qui reproduisent fortement des inégalités, ce qui pose également des problèmes. Les affaires que j'ai montrées tout à l'heure ne peuvent pas être résolues avec un dispositif uniquement de propriété sur les traces, ou alors ça veut dire qu'il faut vraiment agir au niveau de la responsabilité, et là on bascule dans un dispositif judiciaire. Troisième entrée dans ces questions de privacy, de comment restaurer la confiance, ou en tous les cas mettre les individus en confiance, c'est, on va dire, un modèle qui reposera plus sur le sentier ou le réseau, mais j'ai utilisé le terme sentier comme rationalité, parce que l'idée, c'est d'effacer les liens du passé. Alors, qu'est-ce que je prends comme modèle? Je prends plutôt que le réseau, je prends la figure du rhizome que je dois à Deleuze et Guattari, parce qu'en fait, le réseau est polymorphe, et le réseau, peut avoir des structures très très différentes. Alors que l'idée qui nous occupe, c'est qu'on est finalement dans des sphères sur Internet de vie qui sont mi-ombre, mi-lumière, et que le problème, c'est que tout ça est connecté par un élément central, et notamment par les moteurs de recherche qui mettent en visibilité très fortement toutes ces sphères de vie. Donc là, je vous donne la définition de Deleuze, mais ce qui est intéressant chez Deleuze et Guattari, c'est qu'ils voient le rhizome comme quelque chose qui est mouvant, qui pousse et déborde, et en même temps qui n'a pas de mémoire. C'est-à-dire que c'est un dispositif sans mémoire, ou alors une mémoire très courte. Et donc c'est vraiment le moteur qui permet de mettre en lumière les informations cachées, enfin, mises en lumière les informations qui vont être dans des petits nœuds du réseau. Donc qu'est-ce que je suggère dans mon analyse, c'est qu'en fait, justement, en reprenant une approche à la Lessig, un code de Low, c'est que si on intervient au niveau de ce réseau, en fait, les gens qui ont essayé de travailler sur la problématique de Lessig, qui était de dire qu'il faut qu'on peut agir sur la en fait, il ne faut pas agir qu'au niveau des principes, la vraie loi c'est le code, et donc il faut agir soit au niveau de l'architecture, soit au niveau des composants, qui ont essayé de travailler sur ces questions-là. Donc d'abord l'article de Beauvallet et Flichy dans Terminal, qui est assez remarquable pour cela. Ils ont testé des dispositifs, et l'un des dispositifs, c'est la traçabilité de notre information. C'est-à-dire, je donne mon information à un tiers à qui je fais confiance, mais lui, il peut la renvoyer à plein d'autres gens que je ne maîtrise plus, ça part dans la nature. Et donc, en fait, c'est un dispositif qui essaie de contrôler l'information des N plus 1, plus 2, plus 3, etc., qui vont être derrière. Donc c'est ça qu'ils regardent, ils estiment dans leur analyse que c'est finalement possible, c'est plausible, qu'on peut arriver à mettre un dispositif technique qui nous permette de garder la main sur l'information et de ne pas autoriser qu'une information circule, ou en tous les cas savoir où elle a circulé et la récupérer. Moi, en fait, mon regard, il est plutôt dans l'autre sens. Et qu'il me semble ce qui est important, c'est pas forcément de contrôler le futur, c'est-à-dire savoir à qui je vais donner l'information qui va la donner, mais c'est plutôt de pouvoir s'arrêter un moment, faire demi-tour, regarder le sentier, et à partir de là, estimer que telle information ou tel élément ne m'appartient plus en tant qu'identité, ou alors il m'appartient beaucoup trop pour que je le montre aujourd'hui, et donc de décider de couper des liens, et donc de casser des morceaux du réseau, mais de réapparaître un peu autrement dans l'anonymat. C'est-à-dire, pour le dire avec des termes d'économie, c'est d'éviter des situations de lock-in, et donc de recréer la temporalité dans le sentier. Et donc recréer de la temporalité, c'est recréer quelque chose qui ressemble au marché, mais qui n'est pas le marché, qui sont plutôt des sphères, puisqu'on voit bien que le rhizome, il va se reconstituer et il va recréer après des liens. Donc j'ai une figure pour ça, je vais terminer là-dessus. J'ai une figure pour ça, bon, qui vaut ce qu'elle vaut, mais en tous les cas, qui permet, en tous les cas, qui est assez parlante, c'est ce qu'on appelle, ce que j'ai appelé avec un collègue, en discutant, le nettoyeur maoïste. C'est-à-dire, c'est l'idée, derrière le nettoyeur maoïste, il y a l'idée que, comme dans les photos officielles, bah, finalement, quand quelqu'un n'était plus en grâce, on effaçait la photo comme s'il n'avait jamais existé. Bah, c'est de permettre aux gens, finalement, d'effacer des morceaux de leur vie qui n'aimeraient plus être rendus visibles, faire partie de leur CV comme étant quelque chose d'existant. Donc, si je synthétise tout ce que je viens de dire, donc ouvrir la boîte noire, donc là, je ne sais pas si on voit grand-chose, on aurait un modèle, en fait, de régulation de la confiance, l'un bien décrit par Luhmann au niveau du système, et Luhmann montre bien, en fait, cette importance institutionnelle, ou globale, ou systémique, comme on veut, nécessaire pour construire la confiance, que derrière ça, bah, y a des courants d'analyse qui cherchent, justement, à être dans des modèles de captation, donc il y a le science du marketing, ou même les modèles de filière inversée néo-keynésiens sont des modèles qui décrivent très très bien finalement le pouvoir donné à des éléments qui nous viendraient en termes de vie comme quelque chose de systémique, que le problème de la privacy dans cet univers-là, c'est un problème de l'horizon temporel du futur, c'est-à-dire on va être exposé, tracé, Big Brother arrive, il est marchand, c'est le marché avec un grand M, c'est l'État avec un grand E, nos données sont transmises de manière involontaire, on perd la main, et on est presque sûr d'être capté. Donc on est défaitiste, de toute façon on n'y peut rien, c'est comme ça, c'est le progrès, etc. La responsabilité, elle est plus au niveau des individus, c'est eux qui peuvent réguler le système ou qui peuvent donner les bonnes règles permettant de trouver la bonne déontologie. Et donc les dispositifs visant à réguler la privacy sont des dispositifs qui sont des normes communes de gestion de données, de déontologie, etc. Au niveau du marché, bon, je passe un peu plus vite, mais c'est plutôt la rationalité du contrat, de l'accord négocié. Le risque, normalement, enfin, l'exposition, c'est plutôt un risque. Du coup, on fait un calcul de risque. La transmission des données, puisqu'on est dans un contrat, c'est une transmission qui est choisie, et parce qu'on en retire une utilité. Et donc, la temporalité, elle est immédiate. Donc, les exemples, hein, c'est les PETS ou c'est le contrôle parental. Et donc, dans le modèle du rhizome, qui est donc un modèle globalement du réseau, mais encore une fois un type de réseau particulier, la rationalité est vraiment celle du sentier, la dépendance du sentier. L'auteur, donc, c'est plutôt les sigles. L'engagement, c'est un engagement dans le lien. En réalité, c'est vraiment une exploration de lien. Notre horizon temporel, c'est plutôt le passé. On se retourne sur ce qui s'est passé derrière nous. L'exposition, c'est une incertitude. Il y a des gens qui ne le seront jamais. Il y en a qui le seront beaucoup, mais on ne peut pas savoir à l'avance. Notre transmission, elle est quand même un peu volontaire. On a quand même donné des informations, mais c'est l'effet feedback qui n'est pas volontaire. Et ça, qu'on ne maîtrise pas. Bref, et nous, on a un niveau de responsabilité qui est plutôt distribué dans les nœuds du réseau. Et donc, le problème de la privacy, c'est un problème de réduction de l'incertitude. Voilà, donc j'en ai fini. Je voulais juste peut-être pour terminer, dire que donc... alors, aujourd'hui, il y a quand même un grand discours. Il y a beaucoup de livres qui nous parlent de la fin de la privacy, du web communautaire comme étant une nouvelle panacée, etc. Donc moi, j'ai volontairement fait un propos qui est volontairement très web 1, très web, on va dire, avec de vieux principes. Mais en même temps, il me semble que l'enjeu aujourd'hui, c'est qu'on est en train de basculer et qu'il est temps que les individus prennent en main ces questions-là, justement parce que confrontés à des dispositifs d'affaires personnelles ou à des systèmes qui permettront de comprendre ce qui se joue en termes de privacy ou de confiance dans les réseaux numériques, je pense qu'à partir de là, il est possible de remonter au niveau du système et donc du coup d'avoir une action sur les représentants et donc d'impliquer les représentants pour qu'on ait une déontologie forte, beaucoup plus forte et puissante que si on part directement par une entrée par le système, qui est celle des activistes, avec des méthodes de fonctionnement qui sont très connectées au monde des années politiques des années 70-80, qui n'est plus du tout le monde d'aujourd'hui, où les gens désertent les partis politiques pour plutôt agir sur la société civile en utilisant les ressorts narcissiques du web, ce sont les blogs, et on a bien vu dans la dernière campagne électorale qu'il valait mieux pour se tenir informé sur ce qui se passait dans la campagne électorale en France, de lire les blogs de certaines personnes habilitées qui avaient eu un parcours qui permet de sourcer un petit peu la qualité de leur information plutôt que de lire les journaux institutionnels comme Le Monde ou Libé. Voilà.
Merci beaucoup.